France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernier jour dans le Loir-et-Cher pour les carnets de campagne, département de la région Centre-Val-de-Loire, du côté de Blois et de Vendôme. Toutes les émissions précédentes, bien sûr, avec des initiatives diverses et variées dans le 41, sont disponibles en podcast. Et on termine aujourd'hui avec un enseignant qui s'est lancé sur son temps libre dans un grand défi sportif. Il va parcourir 1000 km à vélo cet été pour soutenir des associations qui luttent contre l'endométriose et contre la maladie de Crohn. Si Guillaume a choisi ce combat, c'est parce que ses deux enfants sont touchés par ces deux maladies chroniques, très difficiles à vivre au quotidien. Je passe un coup de fil tout à l'heure. Mais d'abord, des arbres. Tenez, voici un proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Nous voici à Bourset, petit village au nord du Loir-et-Cher, dans un territoire qu'on appelle les Collines du Perche, et où l'on trouve la Maison Botanique, un endroit historiquement associé aux trognes. Les trognes, ce sont des arbres taillés pour fournir du bois. La Maison Botanique de Bourset accueille le Centre Européen des Trognes, et l'on peut se promener dans le chemin des trognes. Les arbres taillés y sont exposés, un peu comme des sculptures. Mais les trognes ne sont qu'une facette de cette Maison Botanique. Bonjour Florian Vincent.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission en agroforesterie. Vous aimez les trognes ?
Oui, les trognes, c'est vraiment un marqueur paysager du secteur du Perche. Et du coup, quand on arrive dans ce coin, on peut apprécier cette manière de tailler les arbres paysans. Et on sait tout de suite qu'on arrive dans un secteur d'élevage et de bocage.
Oui, on peut peut-être les décrire pour ceux qui ne connaissent pas les trognes. Ça ressemble à des têtards un peu, hein ?
Oui, c'est ça. Donc les trognes, c'est des arbres qui ont été taillés à environ 1,50 m à 2 m de haut. Après, il y a différents formats. Et on les recoupe environ tous les 5 à 15 ans en fonction des usages pour en tirer différentes formes de bois. Alors ça peut être des bûches pour se chauffer ou ça peut être même tout simplement de l'osier pour tresser des paniers.
Et ça leur donne cette forme un peu ronde.
Voilà, c'est ça, c'est que les trognes elles peuvent vivre très longtemps, des centaines d'années, avec des cycles de taille répétés. Et du coup, à force de faire ces tailles répétées, les arbres, ils forment des cicatrices, des bourrelets. Et finalement, ils finissent par avoir une tête en forme de trogne. Et c'est pour ça que ce nom original est venu dans le langage du secteur.
Vous dites une tête en forme de trogne, c'est-à-dire c'est une tronche, hein, une trogne.
C'est ça, oui, on arrive de temps en temps à distinguer des visages ou des formes un peu originales sur certains arbres. Et du coup, quand il fait un peu sombre ou que la nuit tombe, on peut deviner des trognes dans les haies qui ont été façonnées dans ce genre-là.
Alors, je le disais, il n'y a pas que les trognes hein, à la Maison Botanique de Bourset. Vous organisez aussi des plantations d'arbres. On est en plein dedans, hein, puisque les chantiers de plantation ont lieu chaque année entre décembre et février. Quel est le principe, Florian ?
Alors le principe, c'est que notre association, elle encourage et elle accompagne les agriculteurs dans la démarche de plantation de haies. Moi, mon travail au sein de l'association, c'est vraiment de concevoir les projets et de les mettre en œuvre. Et ça, ça peut avoir lieu grâce au soutien des bénévoles qui nous aident à planter les haies chez les agriculteurs.
Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de planter des arbres sur des terrains agricoles ?
Alors déjà parce que il y a plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de haies qui ont disparu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ça permet de répondre à tout un tas d'enjeux, à la fois sur le changement climatique, puisque les arbres qui poussent, ils absorbent du carbone. Mais ils permettent aussi, par exemple, aux animaux de trouver des moments d'ombrage dans la journée. Dans le cadre du changement climatique, c'est de plus en plus essentiel. Et puis, ça permet aussi de maintenir un paysage de bocage qui est quand même bien apprécié, à la fois par les agriculteurs qui sont les premiers à en profiter, mais aussi les touristes, les promeneurs et tout simplement les citoyens du territoire.
Et la biodiversité ?
Bien sûr, c'est un support premièrement pour le végétal. On y trouve une grande diversité d'espèces végétales, mais aussi tout un tas d'animaux, que ce soit des oiseaux, des petits mammifères, les écureuils, qui peuvent vivre dans ces milieux qui sont en bordure des parcelles agricoles.
Alors, je le disais, les chantiers de plantation ont commencé. Est-ce qu'il reste de la place pour ceux et celles qui voudraient vous aider à planter des arbres ?
Bien sûr, nous, on fait 9 dates au cours de l'hiver pour planter des haies. Ça a lieu tous les samedis, donc il y a encore des moments où vous pouvez venir. Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, petits et grands peuvent participer. Il y a des enfants qui plantent, les retraités, les actifs, tout le monde peut participer. Il n'y a pas de difficulté physique et c'est vraiment un moment convivial où tous peuvent faire un geste pour l'agriculteur et pour la planète en même temps.
Oui, le mélange vous tient particulièrement à cœur dans le profil des bénévoles.
Oui, on a à cœur que ce soit inclusif, que tout le monde puisse participer et que ce soit aussi un moment de rencontre entre des habitants d'un territoire, des citoyens et des agriculteurs qui n'ont pas forcément toujours l'occasion de rencontrer les habitants de leur territoire. Et du coup, nos projets de plantation, ils permettent aussi de remettre tout le monde en même temps dans l'action environnementale. Et puis, on passe aussi des fois un moment convivial autour d'un repas et tout le monde a l'occasion de discuter, de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et je pense que c'est vraiment important dans notre secteur.
Comment choisissez-vous les essences d'arbres qui sont plantées ?
Alors, les essences d'arbres, elles sont plantées en fonction des objectifs de l'agriculteur. Est-ce qu'il veut couper le vent ? Est-ce qu'il veut refaire de l'ombre pour les animaux ? Moi, je tiens compte vraiment des attentes de l'agriculteur et ensuite, je lui fais des propositions avec une palette d'essences locales, mais aussi avec des espèces qui vont être adaptées à l'évolution du climat, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait de plus en plus chaud et de plus en plus sec avec le changement climatique et on a besoin d'en tenir compte puisque les arbres peuvent vivre plusieurs dizaines, voire centaines d'années.
Vous le disiez, ces chantiers de plantation, ce sont des moments souvent très conviviaux. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter ?
Oui, l'année dernière, la première plantation a eu lieu sous des cordes toute la journée. Malgré ça, on a eu quand même 30 personnes qui sont venues planter environ 600 mètres de haies chez un agriculteur. Il se reconnaîtra peut-être au moment où je suis en train de parler. Les gens me reparlent souvent, me demandent si cette haie a bien poussé parce qu'on avait fait pas mal de gadou, on avait les bottes qui restaient dans la boue. Donc oui, l'été qui a suivi, j'ai été voir cette haie. Aujourd'hui, elle est en bonne dynamique, elle est en bonne voie pour faire une belle haie pour demain.
Cette journée gadou a été mémorable, donc.
Oui, on n'est pas prêt d'oublier. Tous ceux qui étaient là s'en rappelleront encore un moment. Ça n'a pas dissuadé ces mêmes personnes de revenir nous filer un coup de main, soit lors de la saison passée, soit déjà à cette saison.
La Maison Botanique, c'est donc à Bourset, dans le Perche, département du Loir-et-Cher. Merci beaucoup, Florian Vincent.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée aussi, au revoir.
Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Lauriane nous a écrit pour présenter le comptoir des cocottes. C'est une épicerie citoyenne implantée dans deux villages du Loir-et-Cher, pas loin de Vendôme, à Thoré-la-Rochette et à Mazanger. 800 habitants environ dans chaque commune. Depuis l'été 2023, c'est aussi une boulangerie qui a ouvert ses portes à Thoré-la-Rochette, à côté de l'épicerie. L'association Les Amis du comptoir des cocottes, écrit cette auditrice, sans but lucratif, regroupe 220 adhérents, 80 bénévoles et emploie 9 salariés. Ces boutiques ont pour objectif de soutenir l'agriculture durable et locale et de créer du lien social en milieu rural. C'est très précieux, évidemment. Le comptoir des cocottes à Thoré-la-Rochette et à Mazanger. Et puis, je voudrais répondre à un message qui a attiré mon attention, courriel d'un auditeur ou d'une auditrice qui signe simplement de ses initiales, AJ. Je me permets de vous faire part de mon étonnement, écrit-elle, concernant le pédalier fabriqué dans le Loir-et-Cher dont vous avez parlé mercredi dans cette émission. Appareil permettant de pédaler au bureau tout en travaillant, pourquoi pas. Mais si j'ai bien compris, l'appareil est connecté au téléphone portable. N'est-il pas paradoxal que votre émission, qui a le mérite de solliciter la réflexion sur des alternatives à la consommation, vous ait fait choisir la promotion de cet appareil ? Alors je réponds, l'application connectée en l'occurrence me semble intéressante pour régler le pédalier sans avoir à se pencher sous le bureau pour des personnes qui auraient des difficultés à se pencher, puisque justement cet appareil fabriqué en France s'adresse à ceux et celles qui ont des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais vous avez le droit, cher auditeur, chère auditrice, d'y voir un problème. Chacun se fait son avis et la nuance est autorisée.
France Inter. Carnet de campagne.
Voici un défi sportif qui est avant tout un projet solidaire. Un très grand voyage à vélo, 1000 km, afin de récolter des fonds pour deux associations. Bonjour Guillaume Chartier.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes enseignant, Guillaume, vous habitez à Cégy, dans le Loir-et-Cher, oui. Tout près de Thésée, où s'est installé le jeu des 1000 euros cette semaine. Et vous allez vous lancer cette année dans ce périple de 1000 bornes. Parlez-nous d'abord des deux associations que vous voulez soutenir. Quelle cause défendez-vous avec ce voyage ?
Alors, tout simplement, je suis papa de deux enfants qui ont chacun une maladie chronique. Alors, l'endométriose et la maladie de Crohn. Et du coup, j'ai décidé effectivement de faire ce défi pour récolter des fonds pour deux associations. Donc, AFA Crohn qui lutte contre la maladie de Crohn et Endo France qui lutte contre l'endométriose.
Peut-être peut-on rappeler ce que sont ces deux maladies ?
Alors, je suis pas médecin, hein. C'est vraiment l'avis par rapport à un papa, tout simplement, qui vit ça avec ses enfants. Donc, la maladie de Crohn, c'est un dérèglement quand même du système immunitaire, ce qui fait que le système immunitaire, il est complètement désorganisé et il attaque tout et attaqué au niveau de l'intestin. Ça crée des crises très, très importantes. Pour pouvoir le réguler, il faut supprimer le système immunitaire, ce qui fait que certains patients n'ont plus de système immunitaire, ce qui fait que ça va un peu mieux, mais on n'a plus de système immunitaire. Quant à l'endométriose, c'est l'endomètre qui est complètement déréglé, qui produit tous les mois les cellules qui vont dans l'utérus. Et là, ça sort, c'est-à-dire que ça sort complètement, ça migre et ça crée notamment des règles très, très douloureuses. Et c'est une des premières causes de stérilité chez les femmes aussi.
Votre idée avec ce voyage, c'est aussi de sensibiliser le grand public sur ces deux maladies chroniques ?
Exactement. En fait, c'est de partager des moments avec des gens et on se rend compte que finalement beaucoup de gens sont touchés par ces maladies-là, maladies dont on ne parle pas beaucoup. Alors un peu plus l'endométriose et on se rend compte que c'est extrêmement handicapant dans la vie quotidienne. Et oui, c'est de rendre un petit peu lisible ces maladies-là et rendre lisible aussi le travail qui est effectué par les deux associations qui ont notamment une partie réservée à la recherche.
Ce sera votre deuxième voyage. En 2023, oui. Vous aviez déjà parcouru 1000 km et cet été, vous partirez de là où vous étiez arrivé, c'est ça ?
Tout à fait, ouais, complètement. Donc on avait fait, alors je dis on parce que je suis accompagné par ma compagne qui elle est en voiture, qui sécurise un peu le parcours. Du coup, on était parti de notre lieu d'habitation, Saint-Aignan, Cégy. On était allé jusqu'à Dudelange au Luxembourg. En 13 étapes, et c'est une expérience qui restera vraiment gravée dans nos mémoires, très riche. On a rencontré beaucoup de monde, beaucoup de gens très intéressants, très ouverts, et on avait envie de recommencer, alors pas forcément l'année d'après, parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie, et donc tous les deux ans, on a décidé de faire ça tous les deux ans, et de faire tout le tour de la France pour ces deux associations. Et donc, on recommence cette année, on part de Dudelange au Luxembourg et on fait une ligne est-ouest qui va nous emmener à Plouay dans le Morbihan.
L'objectif à terme, c'est de faire le tour de France ou quoi ?
C'est ça. L'objectif à terme, c'est faire le tour de la France tous les deux ans, 1000 km à chaque fois.
Alors, est-ce que vous êtes à la recherche d'hébergement sur le parcours ? C'est le moment de lancer un appel, Guillaume.
Je lance un appel, merci beaucoup. Alors, effectivement, le parcours est trouvé grâce aux hébergements de préférence gratuits. Donc, on a fait appel aux différentes mairies, à différents clubs de vélo. Et là, effectivement, on en a trouvé quand même quelques-uns. On est à la recherche de quelques logements entre la Normandie et Plouay, le Morbihan. Donc, du côté de Sever en Calvados, Saint-Sever en Calvados, Combourg, Plouac-sur-Lier, tout ça. Voilà, on est à la recherche d'hébergement par ici.
Et ce sera en août 2025, je le précise. Comment est-ce que vous transformez un voyage à vélo en don pour les associations ?
Alors, il y a deux manières. Il y a d'abord une cagnotte qui est mise en ligne sur Internet. Et puis ensuite, quand on a les villages d'arrivée, on demande aux municipalités de prévenir leurs habitants. Et comme ça, il peut y avoir des gens qui arrivent sur un lieu qui est déterminé avant. Et les gens qui veulent donner un petit peu, donc donnent dans une vraie cagnotte cette fois-ci. Et puis moi, je reverse tout de suite à la cagnotte en ligne.
Et quel est votre objectif de don pour cette année ?
Alors, la première année, on était à 5 369 €. Alors, c'est pas forcément une envie de faire plus, mais bon, c'est d'approcher un petit peu quand même cette somme-là, sachant que c'est toujours de l'argent en plus pour la recherche, pour ces deux maladies.
Et vos enfants, quel effet leur fait ce projet de leur père ?
Alors mes enfants sont très ravis, ils ont accueilli ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et me soutiennent beaucoup. Donc ils suivent énormément ce qui se passe et puis ils donnent un petit coup de main sur les sites, les réseaux sociaux pour pouvoir les illustrations, etc. Voilà, mais ils sont très très partants.
Voilà, 1000 km à vélo donc pour soutenir deux associations, Endo France qui lutte contre l'endométriose et AFA Crohn qui elle se mobilise contre la maladie de Crohn. Je vous souhaite le meilleur Guillaume et on trouvera sur notre site la fameuse cagnotte pour vous soutenir.
Merci beaucoup.
Bravo à vous et bonne journée.
Merci, au revoir, bonne
journée. Sachez que l'Indre et le Cher sont bientôt à l'honneur dans les carnets de campagne. J'attends vos messages pour signaler des initiatives réjouissantes ou des gens géniaux à Châteauroux et dans les environs, ainsi qu'à Bourges et dans les environs. Un grand merci à l'équipe des carnets de campagne. Sophie Hoffmann qui prépare cette émission avec l'aide de Lila Rapoport et Guillaume Roux à la technique.